Seul, je vais vite.
Ensemble, je vais plus loin.
Parce que la relation,
c'est essentiel. Une émission d'Émilie Vialette.
De quoi t'aurais besoin pour pouvoir avancer?
Ok, c'est quoi ta demande? De quoi t'as besoin?
S'il est un endroit où l'on peut vivre les plus belles émotions comme les pires souffrances, c'est bien dans la relation à l'autre. Dramatiquement nécessaire, l'autre reste celui dont nous avons besoin pour nous sentir exister, tout en pestant contre lui parce qu'il ne nous comprend jamais assez. Ah, ce PFH, ce putain de facteur humain, quand même à le dire, Pierre Rabhi. Parce que je suis convaincue que la relation humaine reste, malgré tout, un moyen privilégié pour révéler les richesses et les potentiels de chacun. Je me passionne pour tous les outils, les méthodes et les ressources qui aident à mieux encadrer la parole et les échanges, afin de permettre aux humains de faire un pas de côté et de regarder l'autre sous un autre angle. Au fil de ces émissions, je vous emmènerai donc à la rencontre de ces outils à travers des témoignages de personnes qui les pratiquent ou qui les enseignent. Je vous proposerai également des reportages de terrain pour vous permettre de mieux vous rendre compte de leur pertinence. Pour cette première émission, j'ai invité Audrey Barat, formatrice en gestion du stress et convaincue, vous l'entendrez, qu'une meilleure compréhension de nos mécanismes émotionnels peut nous permettre de grandement améliorer nos relations interpersonnelles. Bonjour Audrey.
Bonjour Émilie.
Merci d'être présente aujourd'hui pour cette première émission.
Merci à toi.
Alors j'avais envie un petit peu de te poser quelques questions d'abord sur ton histoire et le contexte dans lequel tu as évolué pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Et la première question que j'avais envie de te poser, c'est dans quelle famille tu as grandi d'un point de vue relationnel?
Oula.
Un petit peu comment était le climat familial et comment tu est-ce que tu pourrais dire que ce climat a influencé et façonné la trajectoire que tu as suivie d'un point de vue professionnel?
Alors j'espère que papa et maman m'écouteront pas. Ah ben carrément. Carrément. Moi j'ai grandi dans une famille où la communication et la gestion des émotions, c'était pas vraiment ça. Donc moi, j'ai grandi en fait dans un milieu très très sportif. J'ai fait beaucoup de sport depuis toute petite. Et il y avait toujours cette notion d'exigence, de performance, et pas bien amenée en fait. J'ai beaucoup souffert moi de psychologiquement de la pression due au sport. Et puis je te dis, dans un climat familial, alors je ne vais pas non plus raconter ma vie dans les détails, mais un climat familial avec un papa qui avait beaucoup de mal et à transmettre les choses et à être positif en fait. Donc au lieu de me motiver, au lieu de m'amener à déployer les potentiels que j'avais, il les comprimait complètement. Il ne s'en rendait pas compte, mais ça avait vraiment des effets très négatifs et sur du long terme, pendant des années, ça a été compliqué. Donc j'ai grandi là-dedans et je pense que ça a forcément façonné mon envie de faire autrement, quoi, de montrer aussi qu'on peut être positif pour les autres, pour les personnes qu'on entoure et que ça passe par une rééducation de soi-même un peu, tu vois, dans comment on gère ses émotions, dans comment on communique avec les autres, être un générateur d'ondes positives. Moi, tu vois, c'est un peu mon créneau. Mon père, il avait des bonnes intentions, mais il était générateur d'ondes négatives, quoi. Et c'est juste dommage parce que ça gâche un peu tout, quoi.
C'était la question que j'allais te poser. Finalement, qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui qui serait un peu l'inverse ou la réaction de ce que tu as vécu? C'est ce que tu dis, c'est d'amener des ondes positives.
C'est ça, c'est... La relation, en fait, si on en prend soin et si on a les outils pour mettre de la conscience sur ce qui se passe quand on est en relation, ça peut vraiment créer des choses très positives. C'est l'intelligence collective dont on parle. Hein. Tu mets un groupe autour d'une table, s'il n'y a pas les bons outils, les bonnes façons de réfléchir, de penser ensemble, tu sors de la réunion, tu as 3 heures de réunion, tout le monde est épuisé, tout le monde s'est pris le chou pour on ne sait plus trop quoi au final. Alors que si tu es vigilant, que tu laisses la place à chacun pour s'exprimer, que tu as une façon de vivre la relation, ça peut au contraire stimuler une créativité créativité incroyable et apaiser tout le monde, tu vois, que chacun se sente à sa place.
Donc tu vois vraiment dans la relation un endroit où on peut révéler des potentiels individuels ?
Ah ben complètement. Moi, je crois pas que tu puisses révéler tes potentiels tout seul, quoi. Je crois qu'on a besoin des autres. Et par contre, ça suppose qu'on sait relationner avec l'autre, quoi. Sinon, c'est le revers de la médaille, quoi. C'est, la relation, elle peut être hyper stimulante et aidante, comme elle peut être oppressante. Et moi, je veux accompagner les gens et les groupes à faire en sorte que le lien soit créateur d'une énergie hyper positive, stimulante, quoi.
Alors, par rapport à cette place du lien comme stimulateur d'énergie positive, as-tu fait des rencontres dans ton adolescence, ta vie de jeune femme, qui ont contribué à faire qui tu es aujourd'hui, des rencontres clés, marquantes, des petites lumières, comme j'aime bien dire, dans nos vies ?
J'en ai eu plein. Je pense que je vais revenir un peu en arrière dans le milieu du sport. J'ai eu deux coachs quand même, parce que mon père était un de mes entraîneurs. Mais après, sur mon parcours, j'ai eu deux coachs, Antoine et Robert, qui, eux, justement, je ne comprenais pas trop, mais eux, ils arrivaient à me rassurer, ils arrivaient à me booster. Et donc, voilà, ça a été des personnes en face-à-face, en fait. Tu vois, il n'y avait pas une histoire de groupe, mais voilà, c'est des rencontres vraiment importantes pour moi.
En quoi ça a été important ? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris ?
Ils m'ont appris que, justement, t'es dans une même situation, t'es sur un terrain de tennis, tu t'entraînes, t'as des compétitions. Et avec certaines personnes, tu perds tous tes moyens et tu sais plus jouer. Et dans le même contexte, avec une autre personne, ça devient magique.
Il te révélait.
Alors du coup, je me suis dit, attends, il y a quand même un truc, quoi. C'est pas que toi qui as un souci, c'est quand même l'environnement relationnel qui t'entoure, qui fait que ça te porte ou que ça te porte pas. Donc ça a été vraiment une révélation. Après, moi, dans mon parcours, c'est pas forcément une rencontre, mais c'est une expérience. C'est quand j'ai été surveillante, CPE et prof pendant quasiment 7 ans, pendant toute la durée de mes études, là. Et ça a été un laboratoire d'observation et d'expérimentation assez inouï. Parce que, j'avais plein d'élèves, il y avait 500 élèves dans le collège où je bossais. Et puis, j'étais stupéfaite, en fait, par la différence de perception qu'on avait les uns les autres des élèves ou des classes. C'est-à-dire que, t'as des profs ou des surveillants qui disaient, ouais, celui-là, il est juste insupportable, putain, il est bon à rien, etc. Et puis, d'autres, on était là, mais non, il est chouette, il a plein de capacités. Et puis, donc, j'observais ça, j'observais un prof qui avait une classe, ça se passait super mal, puis il y avait le prof l'heure d'après, ça se passait super bien. Et là, je me dis, mais attends, c'est pas possible, quoi. Un même élève, une même classe, c'est l'enfer d'un côté, et des profs super contents et des élèves super contents l'heure d'après. Il y a un truc. Donc, c'est cette année-là, j'ai commencé à...
Et ça t'a fait dire quoi, de voir ça, ou qu'est-ce que tu en as tiré comme conclusion ?
Que ça s'apprend de rentrer en relation, que ça s'apprend d'être positif les uns pour les autres, c'est pas inné. La preuve, puisque les conflits, il y en a partout, les maladresses relationnelles, il y en a partout. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc c'est là que j'ai commencé en fait à animer de façon complètement autodidacte des temps de parole avec les élèves. J'ai fait des formations pour les délégués, pour leur apprendre à accompagner leurs copains, leurs camarades de classe, etc. J'ai commencé à tester des choses un peu de façon intuitive. Et ça a vraiment scellé, je crois, le...
Donc là, quand tu as commencé ces premiers... petit pas, on va dire. Tu avais déjà fait des formations, tu avais déjà des outils ou c'était complètement intuitif ?
Intuitif, complet. Complet.
Et là, tu as vu que ça prenait, que tu arrivais, que tu faisais passer des choses.
C'est ça. Donc je me suis dit, il y a un truc à creuser. Et après, j'imaginais pas que c'était un métier, ça, en fait. Donc, je savais pas à l'époque, c'était il y a 20 ans, je savais pas que ça existait, tous ces métiers, sophrologue, coach, tout ce que tu veux, là. Donc, en fait, j'ai pas spécifiquement cherché à développer ça à titre professionnel. Donc après, je suis partie dans le journalisme, j'ai fait d'autres choses, et puis c'est petit à petit... en parallèle que j'ai découvert que, ah oui, il y a des gens, c'est leur métier de faire ça, quoi. Waouh.
J'allais justement te demander quel a été ton parcours professionnel. En quelques mots.
Alors, en quelques mots, bah, du coup, mes 7 ans là, dans l'éducation nationale, pendant mes études, le besoin de faire un break. Je voulais être prof ou CPE, moi. Et puis, j'ai eu envie de faire un break pour voir autre chose, parce que sinon, j'allais passer toute ma vie à l'école. J'avais envie de voir autre chose. C'est là que j'ai atterri à Radio Saint-Aff, en fait. Ça devait durer un an et demi, Radio Saint-Aff. Ça a duré 7 ans et ça dure encore. Donc, j'ai été journaliste. Et puis formatrice, et puis j'ai fait quelques jobs là dans le coin de médiation culturelle, de voilà. Et puis aujourd'hui, donc, je fais de la formation et de l'accompagnement, et encore un peu de radio, à 100%, quoi. Je suis plus journaliste.
Donc ce sont des outils que tu as finalement découverts, auxquels tu t'es formée au fil du temps.
C'est ça.
Et tu peux présenter ces outils? Est-ce que quelques-uns ou alors, les plus importants pour toi?
Alors j'ai commencé à faire une formation de praticienne en relaxation par la voix. Et donc ça, c'était directement lié à la radio, c'est-à-dire que j'animais des formations à la radio. Et puis je voulais des outils pour aider les stagiaires qui étaient un peu stressés au micro, les aider à réduire leur stress. Donc j'ai trouvé cette formation, je suis allée la faire à Toulouse. Et dans cette formation, on a beaucoup parlé de PNL et d'hypnose, tout le pouvoir de l'inconscient. Et là, ça m'a complètement fascinée. Donc j'ai continué à faire un cursus de coaching PNL et d'hypnose ericksonienne. Et puis, c'est ma base. Ma base, mon pilier. Et après, quand on est dans ces métiers-là, on n'arrête pas de se former tout le temps. Donc, je me suis formée en CNV, en communication non violente. Je suis en train de me former en yoga restauratif et yin yoga, parce que pour moi, le corps et le mental, c'est hyper important de les relier. Dans les grandes lignes, parce qu'après, je te dis, on fait plein de stages à droite à gauche, on va piocher dans plein de domaines.
Alors, parmi tous les outils que tu viens de citer, quels sont ceux qui, selon toi, sont les plus propices à révéler les potentiels individuels et ou collectifs?
Alors, je ferai pas de hiérarchie. Par contre, moi, mon expérience fait que je n'arrive pas à dissocier la gestion du stress et des émotions individuelles et le collectif. Je te dis ça parce que je me suis retrouvée dans des situations où, dans des groupes, il y avait des médiateurs qui essayaient de faire de la cohésion de groupe. Sauf que si autour de la table, t'as quelqu'un qui est dans une espèce de détresse émotionnelle, qui n'arrive pas à gérer ses névroses, etc., l'outil de facilitation collective, il ne fonctionne pas. Il y a une limite, quoi. Et inversement, si tu fais que du développement personnel et que tu fais que respirer, gna gna gna, et que tu fais pas, le lien avec comment tu mets ça en application dans le groupe, je trouve qu'il y a aussi un manque, quoi. Donc moi, je réunis les deux, et en sachant que la première étape pour moi, c'est la gestion des émotions individuelles. C'est faire un point avec soi-même. Attends, qu'est-ce qui se passe là quand tu le prends hyper mal, ce que te dit l'autre en face, tu te sens agressé, va voir ce qui te touche, quoi, avant de pouvoir mettre en place la relation collective.
Et comment tu arrives à articuler les deux? Si tu fais un accompagnement sur un groupe, par exemple, tu ne vas pas rendre un temps individuel, ou comment tu arrives à gérer ça?
Alors, c'est le gros challenge là en ce moment pour moi. Parce que je fais des formations, en fait, et dans chaque formation, j'impose, si les gens ne sont pas d'accord, je leur dis, écoutez, tant pis, on ne peut pas travailler ensemble. Mais j'impose quelque part un premier temps où on va aller se poser la question et où j'amène des apports théoriques sur comment ça fonctionne physiologiquement, le stress et les émotions, pour que chacun, dans sa petite bulle individuelle, commence un peu à réfléchir à lui-même, quoi. Ça, pour moi, c'est un préalable. Je leur fais expérimenter quelques séances de sophro ou d'hypnose pour qu'ils expérimentent ce que c'est que de se détendre profondément. Et après, éventuellement, des ateliers, des exercices pour le collectif. Mais il y a toujours une base de « je reviens sur moi » et connaissance de soi, quoi. Toujours, toujours, toujours. She knows.
tu dirais que les outils que tu utilises sont efficaces ? Sur quel levier ils jouent, selon toi, pour arriver à, voilà, à révéler le potentiel des gens ?
C'est physiologique. C'est le corps, en fait. Bon, je ne vais pas faire un cours sur, la construction psycho-émotionnelle, mais en fait, en gros, on est tous des univers à nous-mêmes, en fait. On est des univers qui se côtoient. Et on a tous des filtres de perception. On considère tous la réalité d'après notre vécu, d'après notre expérience. C'est une vision hyper partielle et hyper erronée de la réalité, mais on est convaincu que la façon dont on voit les choses, c'est celle-là et pas une autre. C'est totalement inconscient, tu vois. Ta question, c'était quoi ?
C'était sur quel levier ?
Ouais, physiologique. Voilà. Du coup, tout ça, là, ces perceptions, ces filtres, c'est des constructions neurologiques. On a des circuits neuronaux qui dictent nos comportements, en fait. On se croit libre, mais nos comportements, c'est que des automatismes qu'on a construits avec notre expérience. Du coup, c'est la bonne nouvelle, en fait, dans tout ça, c'est que les neuroscientifiques, ils ont vraiment validé que notre cerveau, il change, il peut se transformer jusqu'à la fin de notre vie. Il y avait une fausse idée qui disait qu'une fois qu'on avait passé les 20 ans ou je sais pas quoi, c'était mort, c'est pas vrai. Donc du coup, le travail, moi, que je fais, c'est d'aller prendre conscience des automatismes et des structures qu'on a mis en place et d'aller rééduquer quelque part le cerveau, de revenir en arrière et d'aller créer des nouveaux circuits, du coup, des nouveaux comportements. Voilà, et donc le levier, il est physiologique. Vraiment, vraiment, c'est dans le corps.
Et est-ce que tu as pu vérifier, à travers tous les accompagnements que tu as fait, des recablages, comme tu dis, ou des reformatages, ou des remises en route différentes ?
Ah bah oui, bah moi déjà. Enfin, moi, je suis mon premier cas d'étude, en fait. Donc, je ne suis plus du tout la même qu'il y a 20 ans, ou qu'il y a 15 ans, ou qu'il y a 10 ans, ou que peut-être même il y a un an. Donc ça, déjà, le bienfait que ça fait sur soi, c'est une première... c'est indispensable, je pense, dans ces métiers-là. Si t'as pas fait le travail sur toi, bon, c'est un peu limité. Et après, bah oui, moi, je vois le retour des personnes que j'accompagne. Alors, les personnes que je vois en formation, c'est un peu frustrant parce qu'on se voit pas très longtemps, mais j'ai des personnes en consultation depuis quelques années ou des gens qui viennent dans mes groupes de sophro. Leur témoignage, tu vois, ils le disent. Elles disent, je me rends pas compte que je change, mais en fait, quand je réfléchis, ben, je suis plus la même aussi, je prends les choses beaucoup différemment, je suis beaucoup plus apaisée. Donc, c'est les témoignages qui prouvent, entre guillemets, l'efficacité.
Donc, tu parles vraiment d'un levier vraiment physique, que ça se passe dans le corps, quoi. Oui. Est-ce que tu penses que des conditions sont nécessaires pour que ça fonctionne, ou est-ce que tout le monde est en capacité, comme ça, de pouvoir faire cette prise de conscience de son fonctionnement, de comment il est... Comment elle a été structurée ? Est-ce que tout le monde peut s'en libérer ?
Ah ouais, moi je crois que oui. Après, ce qui fait la différence, c'est la relation entre la personne qui va sur ce chemin et le thérapeute, ou je sais pas, ou le coach, ou je sais pas comment tu veux l'appeler, mais c'est justement la relation avec le client qui fait toute la différence.
Donc tout le monde est capable, par contre il faut qu'il soit bien guidé.
Voilà, il faut qu'il trouve la personne avec qui ça matche, tu vois. C'est ça la clé pour moi.
Est-ce que tu vois des limites aux outils que tu utilises ? Est-ce que tu verrais, est-ce que tu penses qu'ils pourraient être améliorés ? Est-ce que toi, il y a des choses que tu as modifiées, que tu as adaptées pour les rendre encore plus efficaces ?
Ouais, alors moi, la grosse limite que je vois dans tous ces outils, c'est que je suis un peu en rupture avec tout le milieu du développement personnel, là. Parce que ces outils-là sont souvent érigés en espèce de baguette magique, hein, de trucs un peu figés qui fonctionnent comme ça avec tout le monde. Et je trouve qu'il y a parfois une forme d'enfermement qui se recrée autour de tous ces outils, tu vois, de développement personnel.
Des guerres de chapelle, la PNL contre autre chose.
Ouais, et puis si tu fais du développement personnel, ben, t'es forcément vegan. Enfin, tu vois, plein de trucs, puis plein de phrases et de citations toutes fait qui deviennent, je trouve, limitantes. Donc moi, je fais hyper attention à ça, c'est qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'outil absolu. On fait tous la même chose, en fait. C'est qu'au final, on fait tous la même chose, juste on utilise les outils de façon différente, donc il faut se détendre avec ça.
Donc la seule limite, ça serait de les prendre de manière très stricte et enfermante, quoi.
Ah ouais, ouais. Et je trouve qu'il y a un peu une dérive par rapport à ça, qui peut faire du mal à certaines personnes, enfin à certaines clients, quoi, on va dire. Je n'ai pas le droit de dire patients, parce que sinon, l'ordre des médecins, ils ne sont pas contents. Donc voilà, ça, c'est la limite. Et du coup, ben, moi, les outils, je les utilise à ma sauce, en fait, quoi. Je m'inspire, tu vois, par exemple, la CNV, je m'inspire de la CNV, mais je ne l'utilise pas stricto sensu comme on te la présente en formation. Et d'ailleurs, pour moi, les formateurs les plus, qui m'inspirent le plus, par exemple, en CNV, c'est justement des gens qui disent « mais faut être souple avec tout ça, quoi. Faut s'adapter. L'humain, ce n'est pas une science exacte, donc en fait, tu t'adaptes toujours à la personne ou au groupe que tu as en face. Donc, je m'inspire de toutes ces pratiques-là.
Est-ce que tu penses que voilà, la PNL, la relaxation, qui sont des outils, entre autres, que tu utilises, peuvent, d'une manière ou d'une autre, causer du tort à un moment donné ? Est-ce que tu penses qu'il faut être préparé pour les utiliser ? Est-ce que ça peut faire du mal ou est-ce que ça fait toujours du bien ?
Alors, ma question est subtile, parce que je te dis, si ça dépend comment c'est amené, enfin, c'est toujours pareil, quoi. C'est comme tout, quoi. La psychologie, t'as des psychologues qui amènent les choses de façon subtile et pertinente, d'autres qui... Ça alors, faire du mal, j'irai pas jusque-là, mais... En tout cas, c'est des pratiques qui remuent, en fait. Donc, tout l'art des praticiens comme moi, c'est d'arriver à doser et à jauger jusqu'où il peut aller. C'est-à-dire que quand tu veux changer, il faut forcément te mettre des coups de pied aux fesses. Et donc, nous, on est là pour ça. Tu vois, en tant que coach ou praticien, on est là pour aussi secouer la personne. Mais si tu la secoues trop fort, elle se renferme. Donc, c'est arriver à... Et ça, c'est de l'ordre du ressenti. Et des fois, tu te plantes, hein, voilà, très clairement. Donc... Voilà, après, c'est l'expérience, l'intuition, mais dangereux, oui, peut-être, je sais pas, c'est un vaste débat.
Est-ce que ce serait pas plutôt l'intention qu'on y met derrière, plus que l'outil en lui-même, finalement ?
Je sais pas du tout. Franchement, c'est un débat compliqué, je trouve ça... C'est un débat compliqué parce que... En fait, il ne faut pas donner trop de pouvoir aux thérapeutes. Nous, les thérapeutes, on a juste un outil et c'est un travail de collaboration avec la personne qu'on a en face. Donc finalement, moi, par rapport à l'intention, je n'ai pas d'intention, finalement. Quand je reçois quelqu'un, je n'ai pas d'objectif pour lui, quoi. Mon intention, c'est juste d'être là et de laisser le processus fonctionner.
Ce qui est déjà une intention. Parce qu'elle pourrait être plus malveillante ou...
Voilà, oui, ma seule intention, c'est que laisser le processus se faire, quoi. Voilà.
Avoir une position de neutralité, finalement.
Ouais, complètement. Voilà. Je suis un outil, quoi. Enfin, tu vois, dire humain et vivant, mais voilà. C'est plutôt ça, ma posture, en tout cas, moi.
J'avais une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous raconter une situation que tu as accompagnée et qui t'a touchée ?
Ouais. Alors, celle qui m'a le plus touchée, c'est... qui est en tout cas dans ma mémoire, qui est très vive. C'est une intervention que j'ai faite au lycée à Neuvotte, à Castres. C'est un lycée professionnel. C'est un lycée hyper innovant en termes d'accompagnement des élèves. Et ils ont une section qui s'appelle « Mission de lutte contre le décrochage scolaire ». Donc, c'est des élèves qui, à un moment donné, dans leur parcours assez jeune, ont eu une rupture avec l'école. Et donc, ils ont un planning, un emploi du temps, une pédagogie adaptée. Et il y a, en parallèle, ils ont créé un lycée de la nouvelle chance. Donc, pareil, lycée de la nouvelle chance, c'est vers 16, 17, 18 ans, pour des raisons X, Y, t'arrêtes le lycée, tu passes pas le bac. Et puis, quelques années plus tard, t'as envie de passer le bac. Et donc, ils t'accompagnent à repasser le bac. Donc, c'est des élèves et des jeunes adultes qui ont des parcours un peu compliqués quand même. Et donc, je suis intervenue plusieurs fois, plusieurs années là-bas. Et une année, en cours de route, la coordinatrice me dit « Écoute, on accueille un nouvel élève. Donc, il va être dans ton groupe, là, et c'est compliqué. » Elle me dit « Franchement, on a peur que ça aille vraiment pas bien pour lui, qu'il se met en danger au niveau judiciaire, etc. » Enfin bref, elle me dresse un tableau un peu glauque, tu vois. Et puis moi, j'ai pris l'info et puis je l'ai mise de côté et j'ai fait mon cours de coaching et ma séance de sophro. Et là... L'élève, soi-disant, compliqué et tout, je guide la séance de sophro. il plonge dans le truc direct. Vraiment, aucune... Il a été hyper attentif tout le long de mon cours de coaching, tout ça. Il plonge dans la séance de sophro, et puis je les fais remonter, comme on dit, c'est-à-dire, hop, revenir à eux. Puis là, tous les autres se réveillent, entre guillemets, tout ça. Et puis Arnaud, parce qu'il s'appelle Arnaud, était sur sa chaise, il bougeait pas, les yeux toujours fermés. Je fais signe aux autres de sortir, allez-y, allez-y. Et puis tout doucement, je m'approche de lui. Et un truc qu'on fait jamais en sophro, c'est qu'à un moment donné, je l'ai touché, parce qu'il fallait vraiment qu'il sorte du truc. Et là... Il ouvre les yeux, il me regarde, il me dit « merci ». Il se lève, il part. Alors déjà, son regard, il était hyper touchant, voilà. Et puis bon, j'explique ça à la coordinatrice, je dis « écoute, Arnaud, je lui explique ce que je viens de te dire ». Je dis « voilà, jetez un coup d'œil à Arnaud, parce que moi je partais, je pouvais pas rester ». Donc elle me dit « ok ». Et elle me rappelle 3 jours après, elle me dit « écoute, je sais pas ce qui s'est passé ». Elle me dit « mais l'après-midi, il est allé faire le tour de ses profs, il est allé s'excuser ». Etc. Enfin, il a eu une espèce de déclic avec juste une explication de comment ça marche le cerveau, les émotions, pourquoi on est violent et une séance de relax, mais de base, tu vois. Je veux dire, je suis pas du tout allée loin. Et lui, ça a fait un truc incroyable. Donc, tu vois, les outils, tu sais jamais ce qu'ils vont te donner, quoi. Tu peux aller te faire une séance d'hypnose super élaborée avec plein de trucs et de techniques et au bout de 4, vos yeux se ferment, etc. Tu vois, et faire un truc tout simple et qui soit aussi puissant. Mais ça, moi, je le maîtrise pas. Tu vois, c'est pas moi qui maîtrise ça. Donc ça, c'est un magnifique souvenir que je cite souvent en formation. Ouais.
Mais merci beaucoup pour ce partage et pour cette belle histoire que tu viens de raconter. Merci beaucoup, Audrey.
Merci, Émilie.
C'était Essentiel, une émission produite par Émilie Vialette et mixée par Alex de Radio Sainte-Afrique. Vous pouvez la retrouver la première semaine de chaque mois sur Radio Sainte-Afrique, le lundi à 18h, le mercredi à 16h et le samedi à 14h. Essentiel est aussi disponible en réécoute sur toutes les bonnes plateformes de podcast et sur le site internet de Ocha en tapant le mot-clé « Essentiel le podcast ».